CFM Cahors, le mag.
Bonjour et bienvenue dans le mag sur CFM Cahors. Nous sommes vendredi, donc qui dit vendredi dit forcément livre. Et ce sera Cyril de la librairie Caligramme qui proposera son coup de cœur des livres que vous pouvez trouver dorénavant chez vos libraires indépendants du Lot. Mais dans un premier temps, rendez-vous le 20 novembre pour Africa l'Albinque, le retour, puisque l'année dernière, bon, c'était un peu compliqué. Et c'est justement l'objet du premier reportage et de notre premier invité aujourd'hui dans le mag. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors. Rendez-vous samedi 20 novembre à l'Albinque pour Africa l'Albinque qui revient après une édition qui a dû être annulée pour les causes que l'on connaît. C'est de retour ce samedi-là à la salle des fêtes pour une journée et des animations qui sont consacrées effectivement aux enfants du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de Guinée-Conakry, organisées par l'association ICIA, pourquoi pas, dont Jacques Bessière est le vice-président et le trésorier. Bonjour, bonjour Jacques. Alors, est-ce qu'on peut rappeler le but de l'association qui est reconnue de bienfaisance, dit-on, ICIA, pourquoi pas ?
Alors, le but de l'association, c'est de venir en aide à la population et surtout des enfants des pays que vous avez évoqués, c'est-à-dire Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Et nous avons des activités à la fois médicales et éducatives dans ces trois pays.
Ça veut dire que vous déplacez là-bas sur place ?
Il nous arrive de nous déplacer pour avec des missions médicales qui interviennent dans des dispensaires ou des hôpitaux, en collaboration bien sûr avec les équipes locales. Et puis nous avons à distance, sur le plan éducation, nous avons des enfants qui sont parrainés par des familles françaises, moyennant 110 euros par an, et qui permettent à ces enfants qui sont parfois isolés, démunis ou sans famille, d'aller à l'école.
Alors,
et là, ce sont des parrainages qui sont parrainés de cette façon.
Alors pourquoi ces trois pays-là en particulier ?
Alors c'est en fait lié à l'histoire de l'association qui est née il y a 20 ans maintenant. Et c'est à l'appel de religieuses qui sont des religieuses d'origine, qui sont africaines mais dont la congrégation d'origine est à Gramma dans le Lot, et qui avaient fait appel à une de leurs consoeurs lotoises pour venir en aide à des enfants dont la scolarité était défaillante. Et c'est suite à cette première mission que l'association a continué ses activités, et les pays concernés étaient donc concernés aussi par la congrégation qui est une congrégation du Lot.
D'accord. Et alors, dans ces pays-là, il y a une particularité aussi, une pauvreté un peu plus accrue que pour d'autres, ou c'est parce que de toute façon, on ne peut pas être partout.
Effectivement, on ne peut pas être partout. Le Burkina Faso fait partie des pays les plus pauvres du monde. La Guinée-Conakry pourrait être riche, mais ce sont des voies chaotiques et les endroits. Et quant à Côte d'Ivoire, il y a eu aussi des pluies nord-sud qui ont provoqué des déplacements de population. Et bon, les populations auprès desquelles nous intervenons sont évidemment en difficulté. Alors, nous avons aussi construit des classes dans des écoles. Nous avons construit une maternité. Nous avons construit un dispensaire. Nous avons foré des puits. C'est des activités de ça.
Vous êtes seul comme association ou vous êtes unis avec d'autres ? Parce que ça semble quand même, quand vous me dites tout ce que vous avez fait, ça me semble quand même énorme pour une association locale.
C'est vrai, c'est assez important. En fait, non, nous avons des partenariats locaux, mais nous fonctionnons en tant qu'association de manière autonome. Il faut dire que nous avons environ 500 adhérents et que nous organisons aussi des manifestations qui nous permettent, pendant l'été, de réunir des fonds. Nous organisons par exemple des concerts, essentiellement dans le Lot, parce que la plupart de nos adhérents sont ou dans le Lot ou d'origine lotoise. Mmh.
Voilà. On va revenir justement à Africa l'Albinque dans quelques instants. J'aurais aimé vous poser, Jacques Bessière, une question. Vous me parliez tout à l'heure de ce parrainage de 110 euros par an. C'est pas énorme au final, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec 110 euros par an au final ?
C'est déjà beaucoup pour cette population africaine. Et ça n'est pas la totalité de la scolarité. Les familles complètent un petit peu. Mais c'est un pied à l'étrier très important sans lequel les enfants ne seraient pas scolarisés.
Ce qui est assez impressionnant, c'est que finalement, on se dit un parrainage d'un enfant, ben non, c'est pas pour moi. Puis finalement, 110 euros, c'est rien.
Mais oui, c'est pour ça que nous avons finalement pas mal de familles françaises, vous voyez, qui acceptent, parce que c'est une somme qui est à la portée de pas mal de monde. Mais c'est pour les enfants d'Afrique et pour les religieuses ou les écoles qui les accueillent, c'est une somme qui est conséquente, et sans laquelle la scolarité ne serait pas possible.
L'année dernière, Africa Labin. Oui, pardon.
Il nous arrive de demander 150 euros lorsque les familles acceptent de donner 40 euros de plus, qui correspond plus ou moins à une campagne. 40 euros permet aux enfants de manger à la cantine pendant les mois de scolarité.
Africa Labin, l'année dernière, n'a pas pu avoir lieu parce que finalement, on était en pleine crise sanitaire. Quel impact ça a eu pour votre association ?
Ah, ben écoutez, généralement, Africa Labin, nous recueillons au cours de cette manifestation environ au-delà de 1 000 euros, vous voyez, à peu près. Donc, c'est 1 000 euros qui nous a manqué, entre 1 000 et 1 500 euros qui nous ont manqué.
Qu'est-ce que vous auriez pu faire avec ces 1 000 euros ?
Oh, écoutez, on aurait pu continuer à équiper, par exemple, un dispensaire en Guinée-Conakry, qui a été construit et qui commence à fonctionner, mais bon, il y a des études à compléter. On a réfléchi par des panneaux solaires ce dispensaire. On aurait pu construire aussi une bibliothèque parce que elle fait défaut à l'école qui est à côté. Oui. Bon, on a toujours des utilisations assez qu'on espère pertinentes des sommes que nous recueillons.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que dans ces pays-là, on ne sait jamais où va forcément l'argent que l'on donne ? C'est vrai qu'il y a des endroits où on a détourné des fonds de solidarité. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites là-bas ?
Oui, on est sûr, 99%. Parce que nous avons sur place, donc, dans les domaines de l'éducation, soit des religieuses en qui on a toute confiance, et qui sont des religieuses africaines, d'une congrégation africaine, et que l'on connaît depuis longtemps. Et puis, quand on va sur place, on voit à quoi ont servi les fonds. On rencontre les enfants parrainés, on peut les interroger, les questionner, les photographier, recueillir des lettres pour leurs parrains. Quand on voit les constructions qui ont été réalisées, on voit bien que notre contribution a bien été utilisée et à bon escient. Une grande fiabilité dans tous les partenaires qui sont sur place et vers qui nous nous tournons pour faire ces réalisations.
Ce samedi 20 novembre, donc la 8e édition d'Africa Labin, qu'est-ce qui va se passer durant cette journée ? Parce que ça commence à partir de 10h et ça se termine tard dans la soirée. Hein.
Oui, alors le matin, si vous voulez, la salle des municipales est ouverte. On met en évidence certains produits d'artisanat qui pourront être vendus à ceux qui sont intéressés. Des photos seront présentées et défileront en boucle. Des membres d'associations seront là pour éventuellement renseigner sur les activités de l'association. Alors, dans l'après-midi, à partir de 7h, et aux familles qui passeront. La participation est libre, il n'y a pas de droit d'entrée pour ce goûter-là. Et à partir de 19h, alors là, la soirée proprement dite va commencer, et il y aura un repas africain, et pendant cette soirée, une conteuse va réciter ou faire part de contes africains pendant la soirée. Et là, c'est une actrice toulousaine qui s'appelle Loun Kouya qui récitera ses contes. Et là, l'entrée est de 12 euros pour à la fois écouter la conte, participer au repas.
D'accord.
Et c'est gratuit pour les moins de 10 ans. Voilà.
Je vois qu'il y a un verre d'accueil. Qu'est-ce que c'est que le Bissap et le Nyamakudji?
Oui, alors, le Bissap, c'est à partir de... moi, je trouve ça très beau. C'est à partir de feuilles d'hibiscus. Et c'est une boisson typiquement africaine. On en trouve aussi pas mal en Égypte. Bon, il y a des champs de Bissap, c'est de couleur rouge, c'est assez joli comme plante. Et ça donne une boisson très agréable.
Et le Nyamakudji?
Alors ça, c'est... Je saurais moins dire son origine, je dois dire. Mais j'en ai déjà goûté et c'est très agréable également.
En tout cas, on vous attend tous à Africa l'Albin, que c'est ce samedi 20 novembre, à la salle des fêtes avec une journée expo-vente d'artisanat. L'association qui présente aussi ses actions, à partir de 16h, animation enfant, danse, activités diverses, collations, et puis si vous voulez le repas du soir, il faut réserver de préférence avant le 17 novembre.
Voilà, il y a deux numéros pour réserver pour ce repas, pour s'inscrire disons, qui sont le 06 82 47 60 13 et le 06 16 54 84.
Et de toute façon, vous allez sur le site internet ICIAPP, ça s'écrit ISSIAPP.fr. J'imagine qu'il y a aussi tous les renseignements dessus.
Il doit y avoir une affiche concernant la soirée. Avec sinon, le site présente les activités de l'association.
Voilà. Merci beaucoup Jacques Bessière de l'association ICIA Pourquoi Pas. Et on se donne rendez-vous le samedi 20 novembre à l'Albinque.
Avec plaisir, venez nombreux, nous vous accueillerons avec plaisir.
Et comme chaque semaine, on se rend chez les libraires indépendants pour parler livres. Quoi lire, par exemple? Eh bien, il y a des romans graphiques qui sont excellents, d'ailleurs, entre parenthèses. La preuve en est avec Cyril de la librairie Caligramme. Bonjour Cyril.
Bonjour Yannick.
Comment se porte le dernier Astérix, Astérix et le Griffon? Ça se vend ou pas?
Très bien. De toute façon, comme chaque Astérix, il y a toujours les fidèles qui sont là, les nouveaux qui les achètent et puis qui découvrent un peu avec mes traits. Voilà. Là, cette année, c'est Astérix et le Griffon.
Tu l'as lu?
Pas encore.
Pas encore.
Je vais le faire, mais il faut
mais,
que je... Voilà.
Mais à
mais
ta décharge,
j'ai lu plein d'autres choses, ouais.
Tu as lu plein d'autres choses, dont Élise et les nouveaux partisans aux éditions Delcourt.
Voilà, donc Le Dernier Tardi.
Alors, c'est une BD graphique, hein, un
roman
graphique.
Graphique, effectivement, qui est one-shot, donc histoire complète. Tardi, donc, c'est le dernier Jacques Tardi, qui est connu pour ses BD historiques, comme Le Cri du Peuple sur la Commune, et donc il fait Putain de Guerre sur la Première Guerre mondiale. Mais il n'a pas fait que ça, hein. Il a dessiné du Nestor Burma, des livres un peu policiers.
Il a osé Nestor Burma.
Eh oui, effectivement, c'est un des premiers d'ailleurs, et notamment Griffu aussi, et des adaptations de plein de romans de Didier Haninx, entre autres. Donc voilà, donc il est comment connu pour ça? Il a un dessin qui est quand même extrêmement réaliste, noir et blanc, ou assez bien fait, où il donne la part belle en fait aux émotions des personnages, où on s'attache vraiment à ce côté, un peu justement par rapport au visage, un peu très bien décrit. Donc là, on va suivre l'histoire d'Élise, qui est un personnage plus ou moins inventé, mais qui s'inspire grandement de la vie de sa compagne, qui s'appelle Dominique Grange, qui est une chanteuse, un texte assez engagé aussi,
oui.
Qui a effectivement fait connu bien 1968, entre autres, qui fait partie des jeunesses de la gauche prolétaire à l'époque. Donc elle a été vraiment engagée dès le départ en arrivant à Paris en 58. Donc ça va retracer en fait toute cette époque-là des 30 glorieuses entre guillemets de 58 et la mise en place de De Gaulle. Enfin l'élection de De Gaulle, pardon. Désolé pour les lapsus. De l'élection de De Gaulle jusqu'au fin des années 70 et la fin effectivement premier choc pétrolier, voilà, etc. Donc en fait on va suivre ce personnage qui s'appelle Élise, qui est une jeune chanteuse donc sans le sou, qui débarque à Paris en 58 et qui effectivement va essayer en fait en gros va refuser le showbiz et ce qu'on va lui proposer comme contrat en tant que chanteuse pour effectivement essayer de se faire elle-même.
Bon, c'est presque du vécu là.
Exactement. Bah c'est ça, c'est Dominique Grange de toute façon. Hein. Exactement, sauf que le nom change, elle a pris un autre nom, mais c'est vraiment la vie de Dominique Grange, de toute façon c'est elle qui est un co-scénariste hein, avec Tardi. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant, ça s'attache à une période que Jacques Tardy n'a jamais fait jusqu'à maintenant, qui est effectivement les 30 Glorieuses, et tout le côté effectivement un peu plus sombre qu'il y avait derrière, parce que les 30 Glorieuses, ce n'est pas que le boom économique. Mmh. Il y a eu, ben, le début des 30 Glorieuses, c'était quand même le FLN, ça a été quand même la guerre d'Algérie, ça a quand même été, enfin, plein de choses qui ont fait, ça a été le massacre de Charonne, entre autres. Donc, tout va être dépeint dans ce livre, par les yeux, en fait, de cette jeune chanteuse qui va les vivre.
On est là en quelle période finalement? Parce que si tu nous dis les 30 Glorieuses, ça regroupe beaucoup de périodes.
Alors ça va balayer de 58 à l'arrivée en fait de cette jeune chanteuse jusqu'à la fin des années 70. Et de tous les événements qui ont eu lieu, alors pas tous, hein, bien évidemment, ça va faire, alors c'est un parti pris de Tardy, il y a des choix sur certains événements et pas d'autres, hein, c'est au libre concours des gens qui vont lire, de se dire c'est bien, pas bien, etc., parce qu'il va passer, il va prendre effectivement un côté partisan, puisque la co-scénariste est Dominique Grange, donc forcément elle a déjà un biais qui va soutenir. Donc ça reste une BD un peu engagée, avec un parti pris dans ce qu'ils vont faire. Donc ça dépeint pas tous les événements et tous les points de vue possibles et imaginables de cette époque-là. Mais par contre, voilà, ça va vraiment balayer, donc, entre autres mai 68, hein, puisque c'est en plein milieu, et les événements qui vont découler. Mais c'est vraiment les 20 premières années en fait, de la 5e République, décrites par Tardy, par le dessin vraiment réalisé de Tardy, et par le point de vue de Dominique Grange, qui effectivement apporte son prisme, entre guillemets, donc voilà.
Alors prisme, c'est peut-être pas le bon terme, parce que finalement, c'est en noir et blanc quand même.
Oui, effectivement, ouais, mais on est d'accord.
Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais...
mais quand je parle de prisme, c'est par son biais, en fait, par son point de vue.
Je te cherchais.
Voilà, bien évidemment.
Dominique Grange et Tardy, ça s'appelle Élise et les nouveaux partisans, aux éditions Delcourt, une belle BD, un beau roman graphique, à lire sans problème, c'est le choix de Cyril, en même temps que... Alors celui-là, à mon avis, on est dans un autre style. Tu nous as souvent parlé de Caryl Ferret, donc on sait un peu dans quel style il est, Caryl Ferret, et ça s'appelle Sangoma.
Exactement, donc Caryl Ferret, j'avais déjà fait une chronique sur son dernier roman qui se passait en Sibérie.
Pour ceux qui n'ont pas entendu ses chroniques, c'est quel genre de livre?
Alors, c'est vraiment un policier très noir, roman noir, voire même quasiment sociétal, et vraiment dans son esprit, mais c'est du très sombre. Caryl Ferret est connu pour ses enquêtes sanglantes, sur fond souvent un côté sociologique, c'est-à-dire que Caryl Ferret a une chose où c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde, qui est parti très tôt à 21 ans, s'amuser, se balader déjà en Europe et à faire le tour du monde, qui est connu pour ses deux premiers romans qui s'appelaient Aka et Wutu, qui dépeignaient la Nouvelle-Zélande et tout le problème maori de cette époque-là. Donc il est vraiment connu pour faire des romans policiers assez noirs sur des pays qu'on n'a pas l'habitude forcément de connaître. Là, il revient à ses premiers amours, puisqu'il avait fait un troisième roman qui s'appelait Zulu, qui se passe en Afrique du Sud, sur fond d'apartheid et tout le reste. Et là, il revient un peu à ce petit côté-là, donc il revient en Afrique du Sud, avec Corentin Rouget, qui a trouvé vraiment son pendant graphique.
Caryl Ferret, le scénario.
Voilà, scénario, et Corentin Rouget, qui est effectivement le dessinateur.
Ce n'est pas, excuse-moi, une adaptation d'un de ses romans.
Pas du tout, c'est un scénario original. Vraiment scénario original. Il a juste repris l'Afrique du Sud comme lieu. Mais effectivement, voilà. Et donc, Corentin Rouget était connu surtout pour avoir fait, lui, des romans graphiques sur les favelas en Brésil. Donc, pareil, plutôt policier, ce côté un peu là-dessus. Donc, voilà, ils étaient faits pour se rencontrer, entre guillemets. Donc, c'est vraiment une première collaboration qui, moi, je pense, va continuer, j'espère en tout cas. Donc on est Sangoma, on est à Cape Town, dans les environs de Cape Town, en Afrique du Sud. On va suivre l'histoire d'un enquêteur qui s'appelle Shane Shepherd, donc qui est aussi un nouveau personnage, hein, qui n'avait jamais créé, qui va partir sur une enquête d'un meurtre d'un travailleur noir dans un vignoble d'Afrique du Sud, qui a des marques de griffure, on ne sait pas trop d'où ça vient, et notamment il va le lier très vite à la mort d'un bébé, qui a été retrouvé quelques temps auparavant, puisque c'est pratiquement dans le même endroit. Et là, il va discuter avec les propriétaires blancs de ce vignoble, et il va découvrir effectivement tout un passé par rapport à ça. En fait, son enquête va le faire déterrer quelque chose qui s'est passé dans les années fin des années 80, juste entre la fin de l'apartheid et aujourd'hui. Et donc, faut savoir que c'est passé en 2013 dans l'histoire, donc 25 ans plus tard. Et donc, la cession de pouvoir de Nelson Mandela et tout. Voilà. C'est vraiment, on retrouve ce fond en fait d'apartheid et de post-apartheid, c'est-à-dire de tout ce qui s'est pu se passer du passé qui n'arrive pas à évoluer dans le sens où effectivement certains sont encore attachés à cet apartheid. On regrette cette époque-là, notamment quelques Afrikaners, etc. Donc on a vraiment ce côté, à la fois l'enquête elle-même qui va faire, mais tout le côté historique et tout le post-apartheid des 25 années avec la montée en puissance, donc la mise au pouvoir, la prise de pouvoir de Nelson Mandela, avec tout ce qu'il a essayé de faire, mais qui n'a pas toujours fonctionner et effectivement tout ce donc c'est vraiment un roman graphique policier très intéressant. On retrouve du Cahal Ferret avec la violence qu'il peut y avoir dedans, avec le côté très combat. Moi j'adore le côté très action en fait de Corentin Rougier, qui vraiment excelle dans ce dessin très réaliste et assez classique dans l'esprit, mais qui arrive vraiment à faire une tension au fur et à mesure. Donc c'est un roman graphique que je conseille, honnêtement. Ça mêle mon passion pour la BD et le polar, puisque j'aime bien les deux. Donc voilà, c'est vraiment...
Ils ne sont pas de la même nationalité en plus, Cahal Ferret et Corentin Rougier.
Ah si, bien sûr, Cahal Ferret est français. Hein,
ah pardon.
Pas forcément. Cahal Ferret est français, en fait, c'est vraiment... Il est né en France, en Bretagne, hein, c'est un breton.
D'accord, j'aurais pas dit avec son nom et son prénom, j'aurais pensé qu'il était plus anglo-saxon, mais...
Pas du tout, pas
d'accord,
du tout.
Donc effectivement.
Non, effectivement, en français, alors il écrit en anglais, hein, et donc il est souvent traduit.
Oui, il est multilingue.
Mais parce qu'il a fait le tour du monde, donc il connaît, voilà. Et Corentin Rougier, lui, est de Toulouse, je crois, si je me souviens bien, mais j'ai plus l'info exacte. Voilà, mais ils étaient vraiment faits pour se rencontrer, ils ont fait un roman graphique polar coupé aux petits oignons, enfin vraiment aux petits oignons, que je trouve vraiment intéressant, et on découvre effectivement l'histoire de la Sud-Afrique à travers ce...
Du grand art, quoi.
Voilà, exactement.
Bon, ça s'appelle Sangoma de Cahal Ferret avec Corentin Rougier au dessin, et c'est chez Glénat, et Glénat, j'ai même envie de dire, c'est un des plus gros éditeurs de BD maintenant.
Pratiquement, avec Court Soleil, etc., se tiennent, mais Glénat fait partie pour moi des bons éditeurs de BD,
oui,
personnellement.
Oui, parce que c'est très souvent que tu nous parles de ces éditions-là. Eh bien, retrouvez chez votre libraire indépendant du Lot, évidemment, et puis si jamais ils ne l'ont pas, vous pouvez toujours les commander et réécouter ces chroniques en podcast sur cfmradio.fr. Du coup, ça c'est aussi une bonne idée cadeau de Noël, tiens.
Exactement.
Entre parenthèses. Et il faut se dépêcher, il paraît, hein, donc voilà, avant qu'il n'y en ait plus. Merci Cyril.
Merci Yannick.
À bientôt.
À bientôt.
La semaine prochaine, c'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est donc le moment du Duo Day. Le Duo Day, c'est tout simplement des entreprises qui accueillent des personnes en situation de handicap pour leur faire voir leur métier, ou aussi parfois pour échanger et montrer effectivement, échanger sa vie en quelque sorte. Ça permet à des entreprises de voir aussi quelles sont les améliorations à apporter pour embaucher des personnes en situation de handicap. L'hôpital de Cahors vous propose ce 18 novembre 2021, des rencontres pour changer le regard sur l'emploi des personnes handicapées. Ça se passe au hall de l'hôpital de Cahors. Il y a donc dans un premier temps le stand des partenaires de 14h à 17h avec des prestations théâtrale à 14h et à 15h. Et puis de 17h à 19h dans la salle des instances, c'est une table ronde où l'on parlera du retour et le maintien dans l'emploi, le vie ma vie de travailleur handicapé, dans le but de faire comprendre quelles sont les difficultés rencontrées par les usagers de l'hôpital et l'accès aux soins de santé des personnes en situation de handicap. Donc c'est le 18 novembre prochain à l'hôpital de Cahors. Et puis n'oubliez pas également, on aura l'occasion de vous le relancer, mais jeudi prochain aussi et vendredi prochain, il y a un colloque sur un demi-siècle d'archéologie à Cahors. Oui, il y a de nombreuses opérations archéologiques qui sont réalisées depuis les années 70. Alors la question est, où en est-on maintenant ? Eh bien, vous le saurez à l'espace congrès. Progrès Clément Marot qui vous propose notamment une exposition de panneaux qui seront présentés au rez-de-chaussée de cet espace et qui reprendra les grands thèmes du colloque. Donc ça sera pour le week-end prochain, du vendredi 19 au dimanche 21 novembre pour l'exposition, ainsi que du vendredi 26 au dimanche 28 novembre de 10h à midi et de 14h à 17h. Pour plus d'informations, vous allez sur le site Cahors célèbre ses patrimoine.gymdaufruit.com. C'est la fin de ce magazine. Je vous souhaite à tous un bon week-end, mais on reste encore ensemble, bien évidemment, sur CFM. Émission à réécouter tout à l'heure en rediff à 17h et 21h30 et puis en podcast sur cfmradio.fr. Dans un instant, le journal.